Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
C'est donc l'équipe de micro-ondes qui reprend les ondes sur Radio Campus Grenoble, donc le 90.8 FM. On aurait pu et on aurait bien voulu, enfin on aurait dû et on aurait bien voulu d'ailleurs faire cette émission en direct des studios de Radio Campus, mais malheureusement, voilà, pour des difficultés techniques et notamment l'obligation de devoir présenter le pass sanitaire, on s'est délocalisé, ce qui explique qu'on aura peut-être quelques petits bruits parasites dans notre studio mobile qu'on fait du coup en extérieur. Voilà, micro-ondes, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une émission qui s'attaque, comme le dit un peu le générique, au racisme, aux injustices sociales et notamment avec l'idée de relayer les luttes locales. Et pour ça, on a du coup ce soir trois invités qui justement viennent nous parler d'une injustice sociale, à savoir l'obligation du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, mais c'est également le cas pour des professionnels de restauration ou de tout un nombre de lieux accueillant du public. Merci du coup à vous trois d'être là, donc Pauline, Solène, Julie. Voilà, je vous laisserai vous présenter le moment où vous le sentirez, mais en tout cas déjà, bonsoir et merci d'être là avec nous ce soir.
Merci.
Bonsoir, merci.
Donc je le disais, le thème de cette émission est donc l'obligation vaccinale et l'obligation du pass sanitaire. Et micro-ondes a choisi de dédier deux émissions donc ce mois-ci à ça. Une première émission que vous avez entendue la semaine dernière et que vous pourrez réentendre la semaine prochaine sur les bibliothécaires du coup de Grenoble et de l'agglomération qui sont en grève du coup 2 jours par semaine justement pour lutter contre l'obligation du pass sanitaire pour les usagers et les usagères. Et une deuxième émission plus consacrée et aux professionnels de santé et aux personnes justement en manifestation contre le pass sanitaire, plutôt les samedis. Je vous redis bienvenue et je lance un peu cette première question. Donc par rapport aux professionnels de santé et au milieu médical, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez justement nous présenter un peu la situation ? C'est-à-dire en termes de pénurie de médecins ou en termes de... Enfin voilà, comment vous percevez aujourd'hui la situation en fonction de votre expérience, de votre vécu par rapport à ça?
Bonsoir, alors moi je suis Julie, je suis infirmière sur Grenoble dans une clinique. Par rapport aux conditions de travail des soignants et soignantes, ça fait plusieurs années qu'elle se dégrade, mais depuis la crise du Covid, ça s'est augmenté, ça s'est accentué, cette dégradation des conditions de travail. Et du coup, depuis cet été, le pass sanitaire. Alors, il y a deux choses, il y a le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, mais en fait, les deux nous ont impactés. Du coup, sur l'obligation...
Je me permets de te couper, mais justement, tu fais un peu la différence, et moi, je ne l'ai pas bien expliqué. Est-ce que... Tu veux raconter un peu éventuellement, enfin voilà, quelles nuances on fait, parce que des fois on résume tout sous l'obligation de pass sanitaire. Et...
Le pass sanitaire, donc ça touche tout le monde en fait. C'est l'obligation de présenter donc soit un schéma vaccinal complet, soit un test donc de dépistage du Covid inférieur à 72 heures, soit un certificat de rétablissement, c'est-à-dire montrer qu'on a eu le Covid dans les 6 derniers mois. Pour pouvoir aller dans des lieux, voilà, les restaurants, des lieux qui accueillent du public, les bibliothèques, ça. Et en fait, avec ce pass sanitaire, donc les soignants, dans leur vie en général, sont soumis au pass sanitaire. Mais dans leur travail, ils doivent, depuis le 15 septembre, être vaccinés d'au moins une dose de vaccin contre le Covid. Et s'ils n'ont qu'une seule dose, ils doivent se faire tester toutes les 72 heures jusqu'à ce qu'ils aient leur schéma vaccinal complet. Et s'ils n'ont pas ça, en fait, ils sont suspendus de leur fonction, ce qui en fait implique qu'ils ne travaillent plus et qu'ils ne sont plus payés. Alors, il y a les soignants. Je ne sais pas si dans la restauration, il y a des suspensions aussi, ou s'ils continuent à se faire tester. Ça, je ne sais pas trop. Ben, moi, je vais parler en tant qu'infirmière dans la santé. En tout cas, les professionnels de santé doivent être vaccinés. Voilà. Et bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit peu... déjà qu'on était en manque de personnel, mais là, depuis le 15 septembre, bah, on a été amputé de encore... une partie des professionnels de santé qui ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas voulu soit se vacciner, soit il y en a qui sont vaccinés qui ont également refusé de présenter leur passe, enfin leur vaccin à jour. Et du coup, par exemple sur Grenoble, pour donner un petit peu des chiffres, alors au niveau des infirmières, au CHU actuellement il manque une centaine d'infirmières, dans la clinique mutualiste il en manque une vingtaine aussi. Il y a des endroits où il y a des infirmières qui ont été recrutées dans les blocs opératoires. Alors normalement, il faut un diplôme d'infirmière de bloc opératoire, mais en fait, il en manquait tellement qu'ils ont embauché des infirmières qui n'étaient pas diplômées. Parce que en fait, à tout ça, s'ajoute aussi bah, les professionnels qui sont en arrêt parce qu'ils ont le Covid, les arrêts de burn-out, voilà. Et voilà, donc il y a des équipes aujourd'hui, par exemple, dans mon service, il y a une personne de nuit qui est suspendue, du coup, ils sont plus que deux. En fait, s'il y en a un autre qui est arrêté, il n'y a plus personne pour faire tourner le service la nuit. Il y a des grosses difficultés de remplacement de soignants, voilà. Et je sais qu'il y a des endroits où c'est encore pire, pas à Grenoble, il y a des centres d'accueil de patients qui sont fermés carrément, il y a des hôpitaux, notamment celui de Mulhouse qui a déclenché le plan blanc, donc le plan de crise, parce qu'ils étaient en manque de soignants, voilà, depuis du coup le pass.
Et justement, alors j'imagine c'est dur à mesurer, mais en gros, quelle part, enfin, quand tu dis, mettons, il manque 50 infirmières au CHU, est-ce qu'il en manquait déjà avant l'obligation vaccinale, ou est-ce que c'est justement 50 personnes là qui manquent vraiment depuis cette obligation vaccinale, ou globalement, ça fait déjà un certain temps, en gros, qu'il y a des sous-effectifs dans les hôpitaux ?
Bah, ça fait longtemps qu'il manque des professionnels de santé de partout et dans les hôpitaux. Les infirmières, elles ne restent pas. Y a pas que les infirmières, hein, les aides-soignantes, voilà, tous les professionnels de santé. Et là, en fait, ça a augmenté. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 90% des soignants qui ont été à jour de leur obligation vaccinale, mais en fait, ça fait encore 10% qui, là, sont suspendus. Donc déjà, sur une profession où il y a un manque d'effectifs, si on enlève 10% en plus, ça devient vite problématique. En plus, dans une période de crise sanitaire où il faut, de la réanimation, des professionnels formés pour gérer, voilà, accompagner les patients et tout.
Ouais, justement, tu as commencé un peu à répondre à cette question, mais je me posais un peu la question, parce qu'elle est finalement un peu complexe, c'est-à-dire en tant que professionnel de santé, est-ce qu'à un moment, cette obligation, alors pas forcément l'obligation vaccinale, mais en tout cas ce pass sanitaire a été vécu comme... quelque chose qui permettait finalement de relâcher un peu la tension dans le milieu hospitalier parce que théoriquement, moins de personnes hospitalisées, moins de personnes en réa, ou au contraire comme quelque chose qui allait suspendre des médecins ou entraîner encore plus de travail parce que plus de personnes se faisaient tester, etc. Enfin, bon, est-ce que toi, tu as un avis sur cette question, ou éventuellement, est-ce que tu sais si des collègues ont des avis ? Enfin voilà, n'hésitez pas.
Moi, je ne l'ai pas vu comme un truc libérateur par rapport au Covid, mais plutôt l'inverse. D'ailleurs, le pass sanitaire, ça a aussi augmenté ça veut dire qu'il faut faire plus de tests PCR, qu'il faut vacciner plus, qu'il faut très vite en plus, parce qu'il y a eu une rapidité aussi de mise en place. De toute façon, depuis le début du Covid, on nous demande de faire des choses toujours très très vite dans l'urgence et sans forcément qu'on ait les moyens. Mais bon, voilà. Après, je sais que dans mon milieu, il y a eu les deux. Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose et que pourquoi les gens ne se font pas vacciner. Il faut se faire vacciner. C'est la seule façon d'arrêter la pandémie. Et du coup, voilà, moi, je pense pas qu'on fasse une politique de santé publique contre l'avis de... Enfin, sans avoir l'adhésion de la population, mais en tout cas d'une grande majorité de la population, je pense que c'est pas ça une bonne politique de santé publique. Mais En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans ma profession, c'est quand même quelque chose qui est un avis qui est un peu minoritaire, quoi.
Ton avis à toi, enfin que oui, voilà. Plutôt les gens ont pensé que ça allait justement relâcher un peu la pression sur les hôpitaux, quoi. Enfin, c'est ce que.
Oui. Enfin, en tout cas, moi, la majorité de mes collègues, enfin, la discussion est très difficile à avoir dans les services. Peut-être que Pauline pourra compléter, mais en général, quand on en parle, quand on en parle entre collègues, la majorité de mes collègues ont du mal à comprendre les personnes qui refusent le vaccin, les inquiétudes des uns et des autres. Et si au début, le pass sanitaire, ils n'étaient pas forcément pour, en fait, maintenant, depuis qu'ils sont vaccinés et qu'eux, ils l'ont, en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Et puis voilà, ils n'ont qu'à se faire vacciner et ils auront le pass. Et voilà, ça, j'ai un peu l'impression que c'est la vie majoritaire. Mais bon.
Pauline, t'as envie de compléter ?
Pour compléter, moi j'ai un peu moins le regard de qu'est-ce qui se passe au sein de l'hôpital, parce que je suis plutôt sur l'extérieur et tous les services un peu de ville. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment je vois ça comme un peu un tabou dont au sein de la profession, entre collègues, c'est difficile d'en parler. On peut pas en parler parce que derrière il y a forcément aussi des jugements sur des comportements individuels et du coup en plus avec je pense des gens qui sont très très isolés du coup par exemple les personnes qui ont été sanctionnées parce qu'on va l'appeler comme ça en fait du fait de ne pas s'être fait vacciner, ont été des personnes qui n'ont pas pu partager ça en fait avant quoi. Enfin voilà et en plus, la sanction c'est quand même quelque chose qu'ils subissent, c'est quand même une sanction pour faute grave quoi. Et moi je trouve ça, est-ce que c'est une faute grave de refuser de montrer son pass sanitaire parce qu'il y a quand même des soignants qui sont suspendus à cause de ça, en fait, un papier qu'ils n'ont pas montré parce qu'ils trouvent que c'est injuste. Derrière, il n'y a pas du tout de lien avec les vaccins. Donc il y a ce tabou-là, et puis aussi quelque chose qui est de l'ordre de... J'ai l'impression qu'on ne... On se dit que le pass sanitaire, ça va obliger les gens à se faire vacciner. Et tant mieux, on sera débarrassé sans regarder derrière toutes les conséquences qu'il y a sur l'accès aux soins. Hein, parce que il n'y a pas que dans les bars, en fait, aussi où on contrôle le pass sanitaire. Pour accéder à l'hôpital, à une consultation d'un spécialiste, un patient doit montrer son pass sanitaire. Pour aller voir quelqu'un qui est hospitalisé, il faut montrer son pass sanitaire. Donc il y a quand même aussi là-dedans des... Et ça ne choque pas les soignants qui luttent pour l'égalité des soins. On nous parle de non-recours aux soins et des choses comme ça. Il y a vraiment là-dessus où ça, on peut se le permettre, en fait. Parce que derrière, il y a une justification... pour la santé publique, et on peut demander à moi concrètement dans mon travail on m'a demandé de contrôler des passes sanitaires,
Soignants, ok.
C'est pas moi qu'on l'a demandé directement, mais du coup il y a quand même des soignants dans ma structure qui se retrouvent à contrôler des passes sanitaires quoi, et ça ne choque pas. En tout cas, il n'y a pas de... Voilà.
Et ouais, justement, est-ce que tu disais donc la question aussi de l'accès aux soins et à quel point il est empêché ? Est-ce que toi, par exemple, tu as eu des retours de personnes qui disent « je ne peux plus venir du fait du pass sanitaire » ou bien... est-ce que vous avez des retours de personnes qui s'empêchent de fréquenter les hôpitaux à cause de ça, ou les hôpitaux ou les centres de soins ou je sais pas, des centres de santé?
Moi clairement oui, j'ai des personnes qui n'ont pas pu avoir leur consultation et des enfants notamment qui n'ont pas pu avoir des consultations parce que les parents n'avaient pas de passe sanitaire, voilà.
Il y a des opérations aussi qui sont reportées, parce que dans le cadre d'une opération chirurgicale, il faut même, en étant vacciné, il faut un test PCR de moins de 72 heures. Il y a des gens qui ne le savent pas, qui sont prévenus tard, qui n'ont pas le temps de prendre les rendez-vous. Et en fait, ça décale leurs opérations. Et en fait, ça rajoute, depuis le Covid, hein, il y a des retards de prise en soins parce qu'au début, les gens ont eu peur, il y a eu le confinement, donc tout s'est arrêté. Mais là, ça continue ça, en fait. Parce que, voilà, il y a des opérations qui sont reportées parce que la personne n'était pas à jour de son test PCR, elle l'a fait trop tard, que le résultat n'est pas arrivé, du coup, le chirurgien annule. Effectivement, aussi, moi, j'ai des personnes... accompagnatrice de par exemple de patients qui vont faire des chimios, qui sont des soins lourds, et ou à part un accompagnement, c'est quand même pas mal. Et en fait, l'accompagnant ne peut pas être là parce que il s'est pris trop tard, ou là il y a plus de place pour le tester en urgence, et voilà, ce genre de choses, quoi. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut, mais c'est pareil, avec les moyens qu'on a, en fait, on ne peut pas empêcher ça.
Et j'imagine que les baisses d'effectifs, ça a aussi comme conséquence une réorganisation qui vous revient, en fait, des soins. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus il y a moins de personnel, donc forcément, j'imagine que les choses ne peuvent pas se passer de la même façon que quand il y a le personnel nécessaire. Est-ce que ça a des conséquences sur les opérations qui sont prévues ou d'autres choses? Est-ce que vous retrouvez à devoir réorganiser votre travail et à ne pas pouvoir faire tout ce qui serait nécessaire en termes de soins que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs?
Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne sais pas, je ne suis pas dans un service de chirurgie, donc l'organisation... Mais c'est sûr que pour les soignants qui restent, on va dire ça comme ça, qui sont au travail aujourd'hui, en fait, ça augmente leur charge de travail. Ils doivent faire plus avec moins de personnes. Et du coup, forcément, ça va nécessiter d'aller plus vite. Du coup, aller plus vite dans le soin, ça peut faire plus d'erreurs médicales, plus de... et passer à côté de choses pour des patients parce qu'on va plus vite. On n'a pas le temps de faire de la prévention de santé, de l'éducation à la santé, ce qui fait quand même partie de notre travail et qui est important en période de pandémie. Et du coup, ça va entraîner tout ça, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Mais du coup, moi, je vois aussi une réorganisation un peu plus globale, dans le sens où les hôpitaux, ils ont fermé des lits. Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus assez de soignants à mettre pour chaque lit. Donc en fait, ils ferment des lits. Donc du coup, et pour une fois, en fait, j'ai l'impression que sur l'hôpital, ils ont, en tout cas de Grenoble... ils ont anticipé un peu le 15 septembre en fermant des lits avant. Il faut savoir aussi que cet été, il y a certains services hospitaliers où les professionnels sont passés en 12 heures. Parce qu'en général, une infirmière travaille 7 heures. Il y en a une du matin, une du soir et une qui fait la nuit. C'est un peu le roulement pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans les services. Sur certains services, depuis longtemps, ils sont réorganisés en 12 heures parce que c'était plus simple et c'était des souhaits des soignants. Mais dans d'autres services, il y avait vraiment les salariés et beaucoup les infirmières, aides-soignantes et ASH qui luttaient contre cette organisation parce que les justifications, c'est aussi de dire que travailler 12 heures d'affilée, ça a des conséquences sur la santé sur le long terme, et en fait, clairement, quand on travaille en 12 heures, les services passent en 12 heures, ils font des économies de personnel. Et donc là, il y a eu des obligations de services de passer en 12 heures parce que la direction a dit trop de personnel manquant. Voilà. Donc déjà cet été, ils étaient déjà impactés. Là, il y a des impacts, quoi.
Tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, je voulais juste rajouter sur l'accès aux soins. C'est qu'à partir du 15 octobre, les tests PCR vont devenir payants. Ils seront remboursés uniquement sur prescription médicale. En fait, ça, même quand il y aura un besoin médical, ça va alourdir le parcours de soins, en fait, pour le patient qui va devoir passer par son médecin traitant, qui doit du coup avoir un rendez-vous, tout ça. Mais aussi, ça va créer une très forte inégalité dans l'accès aux soins et dans l'accès à tout ce qui est soumis au pass sanitaire aujourd'hui, c'est que les gens qui peuvent payer un test PCR aujourd'hui, c'est 44 euros à peu près. Un test antigénique, c'est 25, je crois. Le test antigénique n'est pas valable dans toutes les situations. Voilà, les gens qui ont un peu d'argent, qui peuvent se payer 44 euros pour aller en boîte de nuit ou au resto ou pour aller accompagner quelqu'un à l'hôpital ou quoi, ils vont le faire. Et puis, il y en a d'autres qui ne pourront pas le faire et ça va empirer en fait ce problème-là. Voilà. Donc, normalement, alors on n'a pas de nouvelles, mais au 15 octobre, les tests vont devenir payants. Sauf ordonnance médicale.
Je propose qu'on se fasse une petite pause musicale et non pas une ordonnance médicale. Et puis on revient juste après pour continuer un peu les échanges qu'on a entre nous et on s'écoute du coup Société, tu mourras pas, de Renaud.
Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas, je tirerai le premier, je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Et c'est toujours Micro-ondes qui prend les ondes sur Radio Campus Grenoble, Radio Campus Grenoble qu'on peut écouter chaque jour, tout le temps, sur le 90.8 FM et en streaming aussi sur le site de campusgrenoble.org. Micro-ondes, du coup, on peut l'écouter tous les samedis de 13h à 14h. Et pour ces deux émissions de rentrée, on a choisi de parler des questions de passe sanitaire et d'obligation vaccinale pour les professionnels. Et du coup, on a autour de la table trois invités avec qui on est super content de pouvoir échanger. C'est Pauline, Julie et Solène. On parlait juste à présent justement un peu de la situation dans les établissements de santé, etc. Je voulais savoir, on a vu que finalement, par rapport au pass sanitaire, les médecins, le personnel soignant sont un peu divisés, qu'il y a des pour, il y a des contre, et qu'on est finalement sur une question assez complexe. Je me demandais un peu est-ce que vous vous sentiez écouté dans vos doutes aussi par les directions ou par le gouvernement, etc. Est-ce que vous vous sentiez compris par rapport aux interrogations que vous pouviez avoir ou bien vous avez l'impression d'être face à un bulldozer, entre guillemets?
Non, on se sent pas du tout compris, pas du tout entendu. Le gouvernement, en face de nous, ça fait longtemps qu'on réclame des moyens pour la santé, plus d'effectifs, l'ouverture de lits et notamment À la sortie du premier confinement en juin 2020, il y a une grosse mobilisation du milieu de la santé. La réponse a été la répression policière et les gazages et rien. Alors il y a eu un petit Ségur de la santé qui a absolument rien apporté. Il y a des services d'ailleurs qui n'ont pas la prime du Ségur de la santé alors qu'ils ont travaillé pendant le confinement. Par exemple les centres dentaires, les laboratoires d'analyse médicale, c'est des professionnels de santé qui aujourd'hui n'ont pas eu l'augmentation liée au Ségur de la santé. Et puis, depuis le pass, on a le sentiment d'être, alors qu'on était un peu les héros et les héroïnes de la France en 2020, là, maintenant, c'est nous qui transmettons le virus. Et si on n'est pas vacciné, ça craint. Plus de salaire et du coup, plus de travail. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner. Le vaccin, vous êtes exposé. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on a un peu l'impression, ça s'est renversé. Maintenant, c'est nous qui sommes vecteurs du virus. Et on doit tout porter, ce pass sanitaire un peu à bout de bras. Et on ne se sent pas du tout soutenu. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Ni par la direction qui est... des hôpitaux qui appliquent de toute façon les directives, j'ai l'impression, sans broncher, et ni par le gouvernement.
Du coup, moi, pour parler des directions, je pense qu'il y a à peu près... moi, de ce que j'ai vécu, il y a très peu de compréhension, plutôt aucune. Alors que pour moi, c'était ces directions-là, en fait, qui peuvent peser. En fait, c'est pas les décisions individuelles. En fait, j'ai l'impression que s'ils avaient pas envie de fermer des lits, ils avaient le droit aussi. Moi, je trouve. Et puis vraiment des. Aussi dans le jugement des comportements des gens et des choses individuelles, en fait, ce n'est pas rien pour des soignants qui ont dû se faire injecter des vaccins alors qu'ils n'avaient pas envie, qu'ils ne le sentaient pas. Et c'est quand même une atteinte dans son intime. Et eux, ils sont quand même porteurs de ça aussi. Et ça, ce n'est pas des choses qui ont du tout été entendues.
Et du côté des patients, un petit peu, est-ce que justement vous avez des retours, à un moment quand tu dis justement les gens nous pensent aujourd'hui comme le vecteur du virus, etc. Est-ce que des fois c'est une hostilité qui revient jusque chez les patients qui viennent se faire soigner ou des choses comme ça, ou bien...
Le fait qu'on transmette le virus, non. Enfin, en vrai, on n'a pas tant de retours que ça. Après, depuis l'obligation vaccinale et la mise en place du pass, il y a quand même une augmentation de l'agressivité par rapport aux soignants, parce que les patients, ils ont besoin de leur pass. Des fois, c'est dans l'urgence et nous, on peut pas forcément répondre à cette urgence. Ça leur pose des problèmes d'accès aux soins et tout ça. Et en fait, c'est nous qui recevons l'agressivité par rapport au fait que leur parcours de soins est complètement perturbé ou qu'ils n'auront pas le test pour prendre l'avion le lendemain pour partir en vacances ou pour aller voir la famille parce qu'il y a eu un décès dans un autre pays. Plein de choses. Et ça, c'est très lourd à gérer. On n'est pas du tout aidé là-dessus. Surtout qu'on manque de personnel, donc ça revient. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, tout ça. Sur le vaccin... J'ai pas trop vraiment de retour des patients. Par contre, pour les patients, souvent, on nous demande notre avis, on nous demande de nous positionner. Et c'est vrai qu'il y en a, si, c'est vrai, il y en a qui, pour qui on est juste, on applique le gouvernement. Enfin, on est un peu les suppôts du gouvernement. Et du coup, par exemple, les gens à l'accueil qui vont leur dire je peux pas vous laisser rentrer, vous avez pas votre passe, ça peut vite devenir des situations très tendues. Je me permets de rajouter, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais normalement, l'État a donné des sous pour payer des gens, pour contrôler les passes aux entrées des hôpitaux, alors que soi-disant, il n'y avait pas d'argent pour ouvrir des lits. Mais il y a des cliniques ou des endroits où on demande quand même au personnel, par exemple au secrétaire d'accueil, de contrôler les passes, alors que ce n'est pas leur travail. Et en fait, on n'embauche pas de vigile en plus pour contrôler ça. Et du coup, c'est à elles de gérer leur travail de base, plus contrôler les passes. Et d'ailleurs, il y a des endroits où ils ont refusé de le faire et où aujourd'hui, ils subissent des pressions de leur direction par rapport à ça. Alors que normalement, les hôpitaux ont reçu des sous pour embaucher des gens pour contrôler les passes sanitaires. Ça aussi, je viens d'y penser.
Ok. ouais. Est-ce que... Bon, en tout cas, je peux passer un peu à la suite. Et notamment, je voulais vous poser la question des mobilisations. Donc, j'imagine qu'elles n'impliquent pas forcément tout le corps médical. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des syndicats qui vous soutiennent qui soutiennent voilà, les soignants qui doutent de ces questions ou en tout cas qui contestent l'obligation vaccinale? Est-ce qu'il y a eu des mobilisations, des perspectives justement de lutte sur ces questions?
Uniquement de la part des syndicats?
Non, peut-être d'autres personnes en effet. Enfin, j'ai eu le réflexe syndicat, mais...
Ouais. Ben, du coup, il y a quand même des collectifs qui se sont montés pour les soignants, mais du coup, j'ai l'impression que ça venait plus des soignants. Après, sur les syndicats, j'ai l'impression que... Je connais pas du tout les positions de tous les syndicats. Mais après, c'est vraiment du soutien au cas par cas. Il n'y a pas du tout de... Enfin... À part les participations aux manifs anti-pass, j'ai pas l'impression qu'il y a envisager des actions collectives, mais parce que je pense que la profession des soignants et des soignantes est hyper divisée sur ces questions-là et que
ils osent pas du coup de peur de s'embrouiller, de se
fâcher. Ouais, j'ai l'impression que c'est il y a un peu de ça, mais
vrai. Il y a les syndicats, je crois que dans la majorité, quand même, ils sont dans le refus de cette obligation vaccinale. Il y a des mots d'ordre, contre les sanctions, les suspensions. Et je sais qu'il y a des syndicats qui ont déposé des préavis de grève pour couvrir les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner ou présenter leur passe. Et du coup, alors moi, j'ai pas trop fait les manifs, mais je pense que les syndicats, c'est quand même, on peut pas être un syndicat aujourd'hui, il me semble, on peut pas être un syndicat et accepter une suspension de salaire et de travail pour un refus. Enfin, voilà. Donc, je pense que dans ce cadre-là, les syndicats soutiennent les salariés qui sont suspendus aujourd'hui. Après, effectivement, moi, j'ai pas eu vent de mise en action collective venant des syndicats, en tout cas, pour organiser les soignants. Voilà. Il y a un préavis de grève et il y a des communiqués, des tracts qui passent de temps en temps, mais j'ai pas entendu plus, quoi.
Ok.
Du coup, moi, c'est Solène. Je suis plutôt sur les mobilisations et les manifestations, notamment. Je suis pas du tout dans le milieu médical, mais de ce qu'on a vu quand même dans la rue pendant cet été, il y a eu des syndicats, notamment il y avait l'UNSA, il y avait FO. Alors, je sais pas, est-ce que c'était FO spécialement pour les soignants, soignantes ou voilà, plus général. Mais là, en ce moment, plus récemment, on les voit quand même moins. On les voit plus en tant que... Enfin, en fait, on les voit avec les blouses blanches, etc. C'est comme ça qu'elles et ils se démarquent, mais plus forcément en tant que syndicat, sous la bannière d'un syndicat, quoi.
Et donc, du coup, là, tu parles un peu de la participation des soignants et... Et je me pose la question du coup des mots d'ordre dans les manifestations du coup du samedi, notamment les manifestations anti-pass, etc. Est-ce que les revendications des professionnels sont reprises ou en tout cas il y a une attention aussi à visibiliser les difficultés de travail dont on vient de parler finalement en début d'émission?
Alors oui, au moins il y a une tentative d'aller vers ça. Après, oui, c'est repris, mais c'est repris un peu de toutes parts, quoi. Disons que le cortège de gauche, voilà, on essaie de... Donc les mots d'ordre, c'est plutôt de l'argent pour l'hôpital, pour la santé, la levée des brevets sur les vaccins, Et puis, bon, après, c'est très... Il y a énormément de... Enfin, c'est très confus, quoi, tout ce qu'il peut y avoir dans ces manifs-là, tous les mouvements qu'il peut y avoir. Et du coup, en réalité, il y a aussi les patriotes et puis les complotistes, on ne sait pas trop, un mélange de tout plein de choses qui surfent un peu là-dessus aussi, quoi. Voilà, qui s'approprient ces revendications-là.
Et justement, de ce que j'ai compris, Solène, toi, tu t'es mobilisée un peu depuis le début sur ces questions. Est-ce que tu as vu, entre guillemets, l'ambiance dans les manifs changer, ou bien voilà, les personnes présentes dans les manifs changer aussi, voilà.
Énormément. Déjà, juste en termes de nombre, ça a commencé le 14 juillet, il y a eu un rassemblement très spontané, puis ensuite, c'était le rythme de tous les samedis. Honnêtement, je suis vraiment nulle en nombre, mais c'était vraiment énorme au début. Après, ça a faibli un peu, notamment à partir du mois d'août. Au début, ça allait en augmentant le nombre de personnes mobilisées. Puis après, ça a diminué. Et puis là, à la rentrée, globalement, ça a diminué. Après, le cortège vraiment purement de gauche, ça a repris un peu du poil de la bête après qu'il y ait eu un accrochage avec l'extrême droite. Et puis en termes de composition de ces mouvements-là, pareil, au début, c'était très, très désorganisé, si on peut dire. Enfin, il y avait un peu des drapeaux français par là, des drapeaux royalistes au milieu des personnes sans étiquette. C'était des gilets jaunes, c'était très, très confus. Et petit à petit, ça... Il y a quand même eu des tentatives de faire des cortèges de gauche qui visent à servir de point de ralliement pour les personnes qui se sentent plus à l'aise à marcher derrière ce genre de revendications plutôt que derrière des revendications de liberté individuelle ou des chants de la Marseillaise, quoi.
Voilà. Ok. Je propose qu'on se fasse une petite pause, mais pas cette fois-ci musicale. C'est nous qui allons faire une petite pause, mais les oreilles des auditeurs vont toujours être un peu concentrées. C'était la proposition de revenir un peu et de comparer justement la lutte contre le fichage, contre le pass sanitaire et les questions de fichage, et notamment une lutte contre le fichage un peu plus ancienne au moment de la création de la carte d'identité. Puis après, comme ça, on pourra revenir dessus.
De quand date la création de la carte d'identité nationale ? Jusqu'au début du XXe siècle, il existe des dizaines de documents pour prouver son identité. Le permis de chasse, le livret militaire ou même une carte d'usager d'une compagnie de chemin de fer. Mais aucun n'est officiel. La seule chose qu'impose la loi pour toute démarche administrative, c'est de se faire accompagner par deux personnes qui attestent sur l'honneur de votre identité. Pas vraiment fiable. D'ailleurs, un marché parallèle du témoin se développe. Des âmes rôdent près des mairies et assurent l'identification contre quelques billets. En 1921, le préfet de Paris, Robert Lelier, lance la première carte d'identité nationale. Au début, cette carte d'identité va servir à identifier ceux qui sont de vrais Français de ceux qui ne sont pas. Gérard Noiriel dit à ce sujet
« Dès les premiers moments de l'application de la loi de 1893 qui contraint les patrons à contrôler l'identité de leurs ouvriers étrangers, des observateurs remarquent que cela est impossible si l'on n'oblige pas les Français à se munir, eux aussi, de papier. Comment confondre autrement les imposteurs se prétendant Français, ayant l'air Français, mais n'étant pas Français ?»
Dans un article imprimé en première page du journal socialiste Le Populaire de Paris, Victor Snell considère que les formalités dactyloscopiques n'ont rien de déshonorant. À ses yeux,
il n'est pas douteux que l'honnête homme n'a pas à redouter d'être connu où que ce soit qu'il se trouve. Quand on dissimule au contraire son identité, il y a de grandes chances que ce ne soit pas pour le bon motif.
Les journalistes, eux aussi, sont partisans du papier d'identité. Dans un article intitulé « Le bertillonnage pour tous », Tristan Leroux appuie les propos que lui a confiés un policier émérite.
Vous entendez bien, n'est-ce pas, que cette carte d'identité sera fatalement établie en deux exemplaires, dont l'un demeurera aux archives préfectorales. Cela revient donc à dire que M. Lelier constitue le plus aisément du monde un formidable fichier qui, le cas échéant, facilitera puissamment nos recherches.
Mais la création de la carte d'identité ne va pas se faire sans résistance de la part d'une large frange de la population. En dépit de cette campagne de presse, la mise en œuvre du projet va se heurter d'emblée à de gros obstacles. Les premiers sont d'ordre matériel. Au mois de septembre 1921, alors que le LIE annonce officiellement la création de cette carte d'identité, les commissariats de police de Paris et de la banlieue n'ont reçu ni instruction, ni le matériel nécessaire à sa délivrance. Ils ne disposent pas des bulletins de demande et du modèle de la carte dont l'impression a été retardée. Les instruments que doivent leur faire parvenir les services de l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris, afin de pouvoir relever les empreintes digitales, ne leur ont pas non plus été livrés. L'initiative est également ralentie, faute de bras, pour la mettre en œuvre. Dans un grand nombre de commissariats, les agents, surmenés déjà, voient cette institution sans enthousiasme. Mais la diffusion de la carte d'identité de Français va surtout se heurter aux résistances d'un grand nombre de citoyens. Le mécontentement se focalise sur la question des empreintes digitales. Beaucoup d'observateurs condamnent ces formalités dactyloscopiques car elles assimilent les citoyens aux délinquants, comme un dessin paru dans l'œuvre représentant un honnête citoyen que saisit par le bras un agent des forces de l'ordre afin de le conduire au commissariat tel un malfaiteur. Un article du journal La France évoque cette idée.
Ainsi, la préfecture de police de Paris ne trouve rien de mieux pour les honnêtes gens qu'une carte d'identité établie sur le même principe que les articles anthropométriques des malfaiteurs. C'est tout de même un peu désobligeant d'être logé à la même enseigne que les pires coquins et d'être obligé d'apposer comme eux ses empreintes digitales sur sa fiche individuelle et sur sa carte.
Fait significatif, le refus de voir les citoyens identifiés à l'aide des techniques inventées par Vertillon pour confondre les criminels est aussi virulent à gauche qu'à droite. L'International qualifie la carte de fiche police d'identité. En première page de l'Humanité est publiée une photographie sur laquelle figure le modèle de la carte d'identité de Français. Un cachet de la préfecture de police de Paris et une presse utilisée par les autorités pour la poser. La légende qui l'accompagne est ainsi rédigée.
Voici les instruments dont se servent les messieurs de la préfecture pour dresser la fiche anthropométrique des libres citoyens de la capitale.
Dans ce quotidien, ce titre est aussi comparé à une espèce de casier judiciaire et Victor Méric, membre du comité directeur du Parti communiste français, propose non sans cynisme de lui substituer un mode d'identification encore plus efficace.
Une carte, ça se paie, ça se remplace, ça se fabrique. Nulle certitude. Pourquoi n'avoir pas recours à une opération plus simple et plus facile? On collerait sur le poignet droit de chaque individu un cachet indélébile portant le nom, la signature, avec date de naissance, condamnation et signature officielle. Il n'y aurait plus qu'à relever la manche pour justifier de son identité. Vous dites qu'un homme peut perdre son poignet et devenir manchot. Évidemment, évidemment. Alors je ne vois plus qu'un seul moyen, c'est de nous faire tatouer notre état civil sur le nombril.
Le Canard à Chenier publie un dessin représentant un agent des forces de l'ordre en train de contrôler l'identité d'un passant, accompagné d'une légende qui prédit que la carte d'identité de Français se transformera rapidement en un document dont la police exigera constamment la présentation. Au même moment, le quotidien de droite, L'Intransigeant, s'insurge lui aussi contre cette carte d'identité qu'il assimile à une fiche bertillonienne dont la détention deviendra obligatoire pour tous, dans la mesure où elle sera progressivement amenée à remplacer toutes les justifications d'identité antérieures. Alors que le problème n'avait pratiquement pas été abordé lorsque le ministère de l'Intérieur avait imposé la carte d'identité aux étrangers séjournant en France, l'opinion publique découvre la menace que ce dispositif d'identification fait peser sur les libertés individuelles. Nous sommes déjà enserrés dans une série de règlements qui font que nous n'avons plus de liberté, nous ne respirons plus. Remarque le professeur de droit René Garraud lors d'une séance de la Société Générale des Prisons en date du 28 décembre 1921. Ces réserves s'expliquent par la crainte des réactions populaires. En 1917, la commission de l'administration générale, départementale et communale de la Chambre des députés avait souligné que les paysans étaient hostiles à cette carte d'identité.
Les ruraux qui se déplacent rarement en dehors des lieux où ils sont connus et ont peu de rapports avec les grandes administrations considéreraient comme une contrainte abusive le fait de s'y plier.
Lors de la séance de la Société Générale des Prisons de décembre 1921, ce sont les réactions défavorables du monde ouvrier qui sont évoquées. Les intervenants craignent que les travailleurs voient dans cette carte une réminiscence du livret ouvrier que les patrons leur imposaient au XIXe siècle. Un nommé Fabry, conseiller à la Cour de cassation, est formel.
Si vous faisiez cette loi, elle ne serait pas appliquée. elle serait repoussée, notamment par toute la classe ouvrière, et vous auriez augmenté le nombre des lois démoralisantes qu'on n'applique pas.
La Confédération Générale du Travail, CGT, qui s'est déjà vivement opposée aux procédures de mise en carte instituées par la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, ne peut que protester vigoureusement. Georges Honorat, directeur honoraire de la préfecture de police de Paris, prévoit de virulentes manifestations contre cette carte, car les syndicats ouvriers y voient une mesure de police et tout ce qui touche à la police a le don de les exaspérer.
Et c'est toujours Micro-ondes qui reprend les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8. Micro-ondes, du coup, une émission qu'on peut écouter chaque samedi de 13h à 14h et qui s'attaque aux questions d'injustice sociale et qui relaye un maximum les luttes locales. On est en train de parler de la question du pass sanitaire et du coup, on vient d'écouter finalement un historique un peu de la carte d'identité et des oppositions à cette carte d'identité. Je voyais que voilà, il y avait quelques réactions autour de la table. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu en quoi ce reportage il vous a étonné?
Moi, je m'étais jamais penchée sur l'histoire de la carte d'identité, mais en fait, j'hallucine un peu de voir en fait le chemin qu'on a parcouru en termes de fichage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on accepte de la part du gouvernement aujourd'hui? Et en fait, ce que ça me fait dire, c'est qu'est-ce qu'on va accepter encore avec le pass sanitaire qui est en train de rentrer dans... Peut-être dans pas dans les habitudes. Mœurs, je sais pas, voilà, mais si, quand même. Surtout que là, le gouvernement dit qu'il va sûrement le prolonger jusqu'à l'été. Et après, quoi, ça va être comme ça. En fait, on est vraiment en train de s'habituer à une société de contrôle permanent. Vraiment, ce reportage m'a fait halluciner sur vraiment aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, et je pense que ça peut être pire.
Solène, est-ce que tu veux rebondir? Est-ce que la question du fichage fait partie un peu des mots d'ordre?
Oui, aussi, notamment via les tracts, mais c'est vrai que c'est, de toute façon, ça va dans le même sens depuis le début de cette crise et même avant, mais avec la loi de sécurité globale. Après, je ne sais plus, la loi séparatisme. Enfin, là, il y en a une autre en préparation, en plus de l'assurance chômage. Mais ça va tout dans le même sens, quoi, du contrôle, contrôle généralisé. Voilà.
Et ouais, par rapport un peu... Donc, on parlait un peu avant d'écouter le montage, justement, de ces manifestations anti-pass qui... Voilà, tu disais que leur nombre diminuait un petit peu, etc. Comment, toi, tu vois un peu la suite de ce mouvement, si tu as envie d'en parler un peu?
Eh bien, j'ai l'impression que ça va s'essouffler. Moi, bon, après, je suis peut-être un peu pessimiste, mais vu le nombre qui diminue, et puis, en fait, c'est aussi des personnes qui, contrairement aux Gilets jaunes, qui avaient quand même une appartenance de classe sociale, là, c'est quand même vraiment des personnes qui, à part le fait d'être opposées au pass sanitaire, n'ont pas forcément grand-chose en commun, qui fait qu'on peut douter quand même du fait que ça perdure, quoi. Et puis, il y a aussi tout l'effet de s'habituer, comme ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la santé, où en fait, peut-être que les gens à la base n'étaient pas forcément motivés pour se faire vacciner, mais qui, une fois qu'ils et elles l'ont fait, bon, bah voilà, quoi. Après tout, c'est pas si compliqué, et puis elles peuvent continuer de vivre, et c'est tout, quoi. Donc, je pense qu'il y a un peu le fait de s'habituer comme ça à ça. Et oui. Puis. Et puis voilà, bon, après il y a toute la question pour la gauche, enfin, d'intervenir ou pas dans ces manifs. Le débat serait très long, et puis on n'a plus forcément le temps, mais en tout cas on peut renvoyer sur les articles du CRIC de Grenoble qui vont s'opposer, voilà, pourquoi nous ne devons pas être dans ces manifs, et puis pourquoi nous devons être dans ces manifs. Voilà. Moi, personnellement, je serais tentée de dire qu'on doit y être si on s'oppose au pass sanitaire, mais voilà, pas forcément le temps d'ajouter énormément d'arguments à ça. Je renvoie plutôt vers les articles, du coup.
Oui, ou en tout cas, mais c'est vrai que cette question de l'acceptation, elle est assez intéressante de dire, voilà, manif ou pas manif, en tout cas, c'est un moment comment on accepte en tout cas ce fichage généralisé, quoi, ce contrôle permanent. Ouais, on termine pas sur une note hyper positive ce débat, mais vas-y.
Après, j'ai même moins positif encore pour terminer, mais juste signaler quand même, il y a des camarades à Lyon qui se sont fait arrêter. Du coup, enfin sur 7, il y en a 4 qui sont en préventive, enfin donc en prison, quoi, et puis 3 qui sont sous surveillance. Je ne sais plus exactement les modalités, mais en tout cas, voilà, pour avoir participé à ces manifs et être entré en conflit avec l'extrême droite, se voit durement réprimé, quoi. Du coup, signaler ça.
Le et contrôle puis, continue encore sous une autre manière, quoi.
Ouais. Puis il y a assez ciblé, quoi, sur certaines personnes. Et puis bon, après, qu'il n'y a pas que dans la rue, quoi, il y a des secteurs qui essaient de se mettre en lutte. Donc de toute façon, vous allez en accueillir dans l'émission où vous avez déjà accueilli, mais les bibliothécaires, là il y a les cafetiers, enfin employés des bars qui essaient de se faire entendre aussi, voilà.
Ouais, merci de faire le lien avec ces différentes luttes. Malheureusement, l'heure tourne un peu et je pense qu'on va passer à la dernière partie de l'émission qui est juste un petit point d'agenda. Et puis après, ce sera déjà le temps de se dire ciao. On enchaîne sur l'agenda.
Alors, pour l'agenda, on peut déjà commencer par une manifestation qui va avoir lieu tout de suite après l'émission à 14h30, donc en ce samedi 9 octobre. C'est un rassemblement en soutien aux personnes atteintes d'une maladie qui s'appelle, alors je vais essayer de bien le dire, qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, qu'on peut réduire en EM, voilà, qui est une maladie, qui est une pathologie qui est assez peu connue et qui est complètement invalidante et qui touche notamment beaucoup de femmes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en entend assez peu parler. Pour poursuivre l'agenda, mardi 12 octobre à 18h, il y a un groupe de parole autour des violences sexuelles qui se réunit au planning familial et qui débutera à 18h, donc au 30 boulevard Gambetta, donc à Grenoble. Pour s'inscrire et pour avoir des informations, c'est possible de contacter le planning familial, donc vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur leur site internet. Et enfin, les samedis 23 octobre et 30 octobre, à partir de 9h30, l'association Ancrage propose des stages d'autodéfense féministe pour les filles adolescentes. Donc là aussi, il me semble que c'est sur inscription, donc vous pourrez retrouver les informations sur internet. Donc c'est l'association Ancrage. Et je crois que j'ai pas donné lieu de rendez-vous pour la manif qui est tout de suite. Ouais, voilà, c'est place Félix Poulard à 14h30.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez terminer par un dernier petit mot pour terminer cette émission? Est-ce que vous avez envie de rajouter une dernière chose?
Non, pas sanitaire.
Et c'est pas mal. Non, pas sanitaire, non à l'obligation vaccinale.
Moi, je voulais rajouter un petit truc. Je ne sais pas si c'est hyper pertinent, mais c'est vous connaissez peut-être une bande dessinée qui s'appelle SOS Bonheur, qui est une bande dessinée qui est dystopique, qui parle d'une société totalitaire. Et il y a tout un passage, c'est des petits récits très courts, et il y a tout un passage sur la santé où il y a une police médicale qui vient vérifier que chacun se soigne bien pour le bien de la société. Et je pense que suite à toute notre conversation, ça peut être une petite référence. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, du coup je ne sais pas si tout est super dans cette BD, mais ce passage à mon avis est assez à propos.
Ouais, il y a même une police qui vient vérifier si tu regardes bien la météo du lendemain pour savoir si tu vas pas attraper la crève parce que ça coûte cher à la sécu, etc. Mais en même temps, il y a plein de trucs qui sont pour le coup très proches de ce que nous on vit en effet.
Et qui s'installent un petit peu dans la durée,
c'est
comme
clair.
On disait.
Dans la durée, oui. On termine justement sur une chanson pour nous donner un peu de peps. Et c'est donc « Abba l'état policier » qu'on va pas laisser s'installer dans la durée. À la semaine prochaine et restez à l'écoute de Radio Campus Grenoble.
Puisque la provocation, ciao. Celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Ah, bah, l'état policier. Ah, parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crévines, les Josuas, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État policier.
Et c'est la fin de cette émission micro-ondes et c'est le moment de se dire au revoir et merci beaucoup d'être venu sur le plateau.
Merci pour l'invitation.
Merci. Au revoir.
Ouais, merci pour votre courage et voilà, super.